Nous sommes mercredi, en toute fin d'après-midi, et Jésus se trouve sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Son ministère d'enseignement public est à présent terminé. Il a pris fin dans le tumulte et le rejet de son message et de sa personne par les autorités du temple. Le lendemain, le jeudi, notre Seigneur se concentrera sur ses disciples, sur le dernier repas et sur les derniers enseignements qu'il désire leur transmettre. Car même s'ils sont d'ores et déjà au courant de la mort et de la résurrection de leur maître, puisque celui-ci les en a prévenus, ils ne comprennent pas encore toute la portée de cette annonce. Nous étions quittés la semaine passée en nous posant avec les disciples deux questions, souvenez-vous. Quand arrivera la destruction du temple et quel sera le signe de l'avènement de l'arrivée en tant que roi de leur maître? Autrement dit, quand arrivera la fin des temps? Alors, puisque Matthieu, dans son évangile, séquence les choses plus clairement que ne le font Marc et Luc, nous allons donc maintenant quitter Marc pour Matthieu. Cela ne nous empêchera pas, en cours de route, de retourner dans l'évangile de Luc et de Marc quand cela s'avérera nécessaire. Je vous invite donc à prendre les 14 premiers versets du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ils s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent en privé lui poser cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare, en effet beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il règne une certaine confusion dans l'esprit des disciples concernant la suite des événements. C'est donc la raison, indépendamment de la question que les disciples ont posée à leur maître, c'est donc l'occasion pour Jésus de clarifier un tant soit peu les choses. Il n'est pas douteux, je le rappelle, qu'il s'attendait au retour de Jésus à l'installation du royaume de Dieu au moment de la destruction du temple. Pour eux, dans leur compréhension des choses, les deux événements étaient étroitement liés et devaient donc coïncider. Alors, pour bien interpréter les différents événements évoqués dans ce passage, on a tenté de rapporter chaque pensée, chaque expression à l'événement qu'elle désigne, sans s'attacher à leur chronologie, qu'ils nous feront demain, d'ailleurs, pour les messages restants, parce que nous n'en avons pas terminé, bien entendu, avec ce chapitre 24 de Matthieu et leur parallèle en Marc 13 et Luc 21. Alors, on est d'autant plus autorisé à suivre ce procédé en essayant de rapporter les faits et les causes, que Luc lui-même a distribué les éléments de cette prophétie en deux discours prononcés à des moments différents. Tandis que Matthieu, donc, les rapporte en un seul discours selon sa méthode. On peut toutefois distinguer dans son propos trois cycles divers annonçant, globalement, des signes généraux relatifs à la vie sur la terre pendant le temps de l'Église, le jugement de Dieu sur Jérusalem et le peuple juif, et enfin l'avènement du Seigneur et les sérieuses exhortations à la vigilance qu'il en tire pour tous les temps. Vous n'aurez pas, ça ne vous aura pas échappé que, faisons aujourd'hui les 14 premiers versets de l'évangile de Matthieu, du chapitre 24 de Matthieu, nous allons donc nous arrêter sur le temps de l'Église. Le discours de Jésus en Matthieu 24 sera en outre complété au chapitre 25 par deux grandes paraboles et par le tableau solennel et saisissant du jugement dernier. Les 14 premiers versets du chapitre 24 que nous venons de lire décrivent donc une période particulière durant laquelle Christ règne d'ores et déjà sur un nouveau peuple constituant l'Israël de Dieu. En effet, l'Église, c'est Israël dont on a retranché les Israélites qui ont rejeté leur Messie et l'Évangile. Israël, que l'on a incorporé donc les non-juifs qui croient par la foi. L'Église est donc le nouvel Israël de la nouvelle alliance inaugurée avec les 12 et où sont incorporés les non-juifs qui croient. Luc appelle cette période dans son évangile le temps des nations. On va prendre ce verset. Luc 21, verset 24. Ils, donc les juifs, tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations. Et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Ce temps des nations est donc le temps accordé par Dieu au salut des non-juifs, c'est-à-dire à l'Église. Dans l'évangile de Luc, cette mention permet de séparer dans le discours de Jésus tous les événements devant se passer durant ce temps et qui débutent à la Pentecôte avec la naissance de l'Église et qui se terminent avec le retour du Seigneur en gloire. Retour, je le rappelle encore une fois pour qu'on ne se méprenne pas, retour qui annoncera la fin de ce temps des nations et le nouvel espoir d'Israël, car au retour de Jésus en gloire, le peuple juif sera rétabli dans ses prérogatives de peuple, de nation élue. Nous sommes donc, au moment où je parle, dans ce temps des nations. Vous avez compris ça, j'espère. Et celui-ci prendra donc fin avec le retour de notre Seigneur. Marc, quant à lui, va préciser l'objectif de ce temps. Ben, ce temps existe, mais pourquoi faire ? Eh bien, voilà ce qu'il dit. Il faut d'abord, enfin, c'est Jésus qui le dit, il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Nous ne sommes pas donc là pour ne rien faire en tant qu'Église. D'ailleurs, ce mot d'abord est intéressant, puisque si Marc l'utilise, c'est pour indiquer que ce temps doit exister avant que Jésus ne revienne définitivement installer son royaume. Et donc la raison de ce temps, Jésus l'explique, c'est la grande mission qu'il donnera avant de retourner auprès de son Père, avant l'ascension. Rappelez-vous, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous, jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin du monde, donc jusqu'à la fin de ce monde. Après, il sera avec nous véritablement, en présence réelle, si je peux dire ça. Commence à s'habituer à la présentielle, hein, ou pas, excusez-moi. Donc l'objectif de ce temps des nations est important puisqu'il est l'évangélisation du monde par le nouveau peuple de Dieu, l'Église. Rappelez, hein, qui a remplacé Israël, en tout cas remplacé dans le sens que c'est aujourd'hui à l'Église qui incombe la responsabilité d'annoncer le salut en Christ et la venue du royaume. Alors différents événements marqueront cette dispensation de l'Église. Ce monde, comme nous le connaissons, va vers sa fin. C'était déjà le cas il y a 2000 ans. C'est vrai. C'est ce que Jésus dit à ses disciples, mais cela prendra encore du temps avant que l'heure fatidique ne sonne et qu'il revienne effectivement. Les disciples vont donc apprendre à quoi ils doivent s'attendre dans la suite des temps de l'histoire. Mais le quand de la fin de l'histoire, comme nous la connaissons, leur restera caché. De l'aveu même de Jésus, seul le Père connaît la date et l'heure du retour de son Fils. En attendant, bien des tentations et des épreuves attendent ce monde et les disciples que Jésus va y laisser. Notre Seigneur veut donc les préparer et nous préparer afin que nous tenions bon, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passions. Je reprends les versets 4 et 5 de ce que Jésus dit à ses disciples. Faites attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Le premier signe du temps où nous sommes, c'est donc l'émergence de faux Christ ou de faux Messie. Alors, il est inutile de tenter de cibler des personnages de l'histoire. On l'a un peu fait la semaine passée. Je crois que vous avez compris le principe. Il suffit de se rappeler que tous les faux docteurs, tous les faux enseignants, et surtout ceux qui ont la prétention d'avoir seul compris le Christ, de représenter sa doctrine, et qui, en son nom, prêchent leur système d'erreur, sont de faux Christ. Et Jésus dit, il ne faut donc pas les suivre. Ce temps intermédiaire entre le départ de Jésus et son retour sera donc marqué par la tromperie spirituelle. Alors, ça ne devrait pas nous étonner, puisque cette réalité s'est fait jour dès les premiers temps de l'Église. Bible en main déjà, et si vous êtes un peu passionné d'histoire comme moi, et que vous compulsiez légèrement l'histoire de l'Église, vous allez voir que ça n'a jamais arrêté, en fait. les tromperies spirituelles. Les apôtres ont dû se battre pour protéger les églises locales de fausses doctrines qui s'y répandaient. Dès le départ, on y est. Citons sans être exhaustif le gnosticisme, épître de Paul aux Colossiens, le docétisme, premier épître de Jean, et le retour au judaïsme, épître de Paul aux Galates. Ces trois épîtres, entre autres, ont été écrites pour barrer la route à ces fausses hérésies, pardon, à ces hérésies, parce qu'une hérésie n'est pas définitivement fausse, à ces hérésies qui commençaient à pénétrer l'entendement des églises. Alors, la fausse doctrine est toujours une réalité aujourd'hui, c'est bien ce que Jésus veut faire passer comme message à ses disciples et à nous par extension. Il ne faut donc pas s'étonner de ce que ça existe. Vous savez aussi, comme moi, que de nos jours, cette fausse doctrine étend leurs tentacules sur bien des réalités ecclésiales. Ça me fait penser à un texte de Paul qui disait que dans la fin des temps, les gens, donc les chrétiens, deviendraient allergiques à la parole de Dieu. Ils préfèrent qu'on leur prêche des trucs qui leur plaisent. C'est assez humain. Alors, le seul moyen, on répétera jamais assez, de ne pas se laisser séduire par qui que ce soit, par quand même d'enseignants qui séduisent, hein, qui trompent les gens, donc c'est à vous, c'est votre responsabilité en tant qu'Église, à distinguer votre gauche de votre droite. Et la seule façon de le faire, de savoir si je prêche le vrai, c'est de connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement ma responsabilité, c'est la vôtre en tant qu'Église. Et donc de pouvoir, d'avoir la capacité de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. C'est d'ailleurs ce que reproche l'auteur de l'Épître aux Hébreux à ses destinataires. Il reproche d'être encore des enfants, alors que depuis toutes ces années, ils devraient être des maîtres dans la parole. Et pouvoir donc quoi ? Ben, distinguer le bien du mal, ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors, en plus de la tromperie spirituelle, ce serait déjà assez, mais non, ça ne suffira pas, ce temps de l'Église sera marqué par des guerres et des bruits de guerre. C'est ce que Jésus affirme. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ça, je pense que nous sommes tous au courant que ça existe aussi. Hein. On ne peut pas ouvrir la TV sans qu'on parle d'une guerre ou d'une guerre annoncée. Ne vous laissez pas effrayer, dit Jésus, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, dans certains textes des pestes, donc des maladies et des tremblements de terre. Alors, j'ai fait le calcul, mais la liste, le chiffre n'est pas exhaustif non plus, hein, donc je ne suis pas sûr d'être tout à fait sûr et de les avoir toutes criblées, mais savez-vous combien de conflits il y eut depuis cette prophétie de Jésus ? Ben, je vais vous le dire, hein, ça vous ne savez pas. Bon, voilà. Il y en a eu plus ou moins 900, dont deux guerres mondiales et deux bombes atomiques. On a quand même fait assez fort, hein, je trouve. Alors, vous me direz peut-être que vous vous attendiez à plus en 2000 ans. Il ne faut pas oublier que ces conflits duraient parfois des années, entre les mêmes belligérants, j'entends, voire plus d'un siècle, comme la guerre de 100 ans, qui en fait a duré 116 ans, pour être exact, ou la guerre froide, qui fut une guerre de la terreur nucléaire, des renseignements et de la torture, et qui dura 44 ans, de 1945 à 1989, et la chute du mur de Berlin. Et la guerre froide, vous le savez, coupa le monde pendant toutes ces années en deux, avec toutes les tragédies qui en ont découlé, bien entendu. Alors, tous ces conflits, au cours des siècles, ont bien entendu drainé avec eux leur lot de morts, de maladies, de souffrances et d'horreurs parmi la population civile. Bah oui, ce serait trop beau que les militaires s'entretuent entre eux. Ça se passe rarement comme ça. Ce temps des nations, comme l'appelle Luc, sera donc marqué par les guerres. Quand on y réfléchit, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, puisque les guerres sont produites par quoi ? Ben, par le cœur de l'homme. Et tant que Jésus n'a pas installé définitivement son royaume, le cœur de l'homme ne risque pas de changer. Alors certains indéfectibles optimistes, ça existe, hein, on peut comprendre, si vous ne croyez pas en Dieu, il faut croire en l'homme, hein, et sur les capacités de l'homme de faire le bien pour l'avenir. Certains indéfectibles optimistes continueront donc à dire que le monde va dans l'ensemble mieux, que le continent européen, par exemple, mis à part la guerre en ex-Yougoslavie dans le début des années 90, n'a plus connu de conflits armés sur son territoire depuis 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la création de l'Europe est là et qu'elle a beaucoup contribué à ce qu'il n'y ait plus de guerre sur son territoire. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai, hein, faut le dire. Il n'en demeure pas moins que les nationalismes reviennent en force au sein de l'Europe. Les frontières sont toujours ouvertes, enfin peut-être pas trop pour l'instant à cause de la pandémie, mais en règle générale, les frontières entre les pays européens sont ouvertes, mais elles se ferment de plus en plus idéologiquement. On ne pense plus vraiment la même chose. Alors n'oublions pas non plus que l'Europe, et plus largement l'Occident, est frappée depuis quelques années par une autre forme de guerre, excusez-moi, à savoir le terrorisme islamique. Le monde, prévient Jésus, n'ira donc pas vers un âge d'or, apaisé grâce à la science et aux avancées technologiques, ni même grâce à l'Évangile. Hein. L'Évangile ne va pas amener la paix sur la terre. Hein. Tout ça ne mène pas vers un mieux, mais vers la fin des choses. Et pourquoi? Ben parce qu'à la base, le Père a décidé, a acté le fait que ce système aura une fin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Peut se dépatouiller comme on veut, Dieu a décidé qu'à un moment ce serait terminé. Ce serait déjà bien qu'on s'arrête là, franchement. Hein? Les faux prophètes, la tromperie spirituelle, les guerres. Ben, ça ne va pas suffire, j'ai envie de dire. Aux guerres et aux troubles entre les nations et les royaumes viendront s'ajouter des calamités naturelles, telles que des famines et des tremblements de terre. On prend le verset. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre, dit Jésus. Alors rien qu'entre 2000, l'an 2000 et 2019, le monde a connu près de 300 séismes en ne comptant que ceux ayant atteint une magnitude de minimum 6 sur l'échelle de Richter. Je n'ai pas comptabilisé ceux qui sont en dessous de 6. 300. Alors, certains pourraient, et certains l'ont fait, avancer malgré tout que Jésus ne prenait pas beaucoup de risques en faisant ce genre d'annonce, que les tremblements de terre ont toujours existé. C'est vrai. Mais l'intensité et les répliques sont de plus en plus fortes. Des famines aussi. Il y en a toujours eu. Mais il n'empêche que le massacre par la sous-alimentation et par la faim de millions d'êtres humains reste le principal scandale de ce troisième millénaire. 2000 ans, hein, se sont écoulés, et comme Jésus l'avait annoncé à ses disciples, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Hein. Pour Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, la faim dans le monde est un crime contre l'humanité indéfiniment répété. Ça me rappelle donc cette prophétie de notre Seigneur, hein, quand Judas lui reproche, ou reproche plutôt à cette femme qui est venue oindre les pieds de Jésus de parfum, et que Judas grommelle entre ses dents en disant: on aurait pu employer ça pour les pauvres, tu parles. À mon avis, il voulait surtout se les mettre dans la fouille. En tout cas, c'est la lecture que Jean avait à l'époque. Et Jésus dira: ne blâmez pas cette femme, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Comme pour nous prévenir que la précarité des êtres et leur pauvreté chronique feraient toujours partie du monde à son retour. Ça sera toujours là. En 2005, toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans mourait de faim ou de maladie liée à la malnutrition. C'est ainsi qu'en 2004, la faim a tué plus d'êtres humains que toutes les guerres réunies de cette même année dans le monde. Et chaque année, c'est pire. En 2001, un enfant de moins de 10 ans mourait toutes les 7 secondes. Cette même année, 826 millions de personnes avaient été rendues invalides des suites d'une sous-alimentation chronique. En 2005 toujours, elles étaient 841 millions, pardon. Une augmentation donc de 28 millions en 4 ans. Les chiffres actuels ne sont pas bons non plus, même s'ils semblent se stabiliser un petit peu. Le temps des nations sera donc également caractérisé par des catastrophes naturelles et des famines. Et notre Seigneur prévient, tout cela, nous dit Jésus, sera le commencement des douleurs. Autrement dit, tout cela montre que notre Seigneur est là, à la porte, mais qu'il faudra encore attendre. Alors, toutes les mères du monde savent que le début des contractions ne dit qu'une seule chose. C'est que l'enfant est sur le point de naître. Les contractions ne disent pas quand l'enfant naîtra. Et les mamans savent que cela peut encore prendre bien du temps. Un temps qui semble long, tant les souffrances et l'attente sont grandes, tout comme est grande la souffrance et intense l'attente de celui qui espère le retour de son Seigneur au milieu des tribulations de ce monde. La seule indication que possède la mère pour savoir que l'enfant est proche de sa venue en ce monde, c'est la diminution du temps entre les contractions. Autrement dit, ça accélère. Je n'ai pas envie de vous rappeler de mauvais souvenirs, hein, mesdames. Les choses se répètent de plus en plus, elles sont de moins en moins espacées, elles sont de plus en plus intenses. C'est pour ça que Jésus emploie cette image des douleurs de l'enfantement. Donc, y a-t-il eu toujours des guerres? Oui, mais jamais à répétition et sans interruption comme c'est le cas aujourd'hui. Y a-t-il eu de tout temps des tremblements de terre et des famines? Oui, mais là encore, les épisodes se répètent de plus en plus souvent. Idem pour les tempêtes, les ouragans et autres tornades. À cela, nous pouvons discerner que nous nous rapprochons des temps de la fin, car plus proches nous serons du second avènement de notre Seigneur, plus les contractions et les douleurs seront grandes, plus les catastrophes citées par Jésus se répéteront avec de plus en plus d'intensité. Et Paul rappelle d'ailleurs dans sa lettre aux Romains que la création tout entière souffre quoi? Les douleurs de l'enfantement, en attendant que son Seigneur revienne. Ce n'est pas encore terminé. Vous avez compris qu'on est, en tout cas en Occident, on est, bon, y a des drames, bien entendu, tous les jours, hein, etc. Réchauffement climatique entre autres aidant, mais on ne peut pas vraiment dire, il n'y a pas de guerre, enfin, ça va quoi. Donc ça va être de pire en pire, vous aurez compris, hein. Alors on vous livrera la persécution et l'on fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ce qui marquera également le temps des nations ou de l'Église, c'est la persécution des chrétiens. Alors, il y a toujours eu persécution des véritables disciples de Christ, hein. Là encore, c'est comme pour les hérésies et la fausse doctrine depuis le début de l'histoire de l'Église, hein. Ça a commencé tout de suite. Savez-vous qu'il y a actuellement dans le monde plus de 50 pays dans lesquels les chrétiens sont persécutés pour leur foi parce qu'ils sont chrétiens? 50. Là encore, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup. Ouais, ben, c'est parce qu'on n'y vit pas ça, hein. Les disciples de Jésus, les 11, je ne compte pas Judas, hein, sont morts martyrs. Ainsi que par exemple, ça on le sait peut-être moins, Jacques, le demi-frère de notre Seigneur, qui a écrit l'épître de Jacques que nous possédons dans le Nouveau Testament. Jacques, donc, il fut précipité du haut du temple, un peu là où le diable avait amené Jésus pendant sa tentation au désert. Donc, ils l'ont jeté, précipité du haut du temple. Il a atterri, forcément. Il a été lapidé, achevé à coups de pierre. Et finalement, puisqu'apparemment il n'était toujours pas mort, on l'a achevé à coups de maillet, voilà, les grands marteaux, là. Tout ça sur l'ordre du grand prêtre de l'époque. Et dans une vacance du pouvoir romain où un préfet était parti de Judée pour être remplacé par un autre. Donc il y a eu un laps de temps où il n'y avait plus d'autorité romaine. Apparemment, les Juifs en ont profité pour, en tout cas les responsables du temple en ont profité pour se débarrasser de Jacques. Vous avez les sources historiques en bas de page. Ce fut également le cas de nombreux pères apostoliques, hein, donc des disciples des apôtres, qui sont quasi tous morts martyrs. Hein. Par exemple, Ignace d'Antioche, donc l'évêque d'Antioche, hein, la ville de l'église de Paul, qui mourut martyr à Rome, livré aux bêtes dans l'arène vers 119. Et il ne devait pas être le dernier. Le livre de l'Apocalypse a d'ailleurs été révélé à l'apôtre Jean afin de quoi? Ben, afin d'encourager les églises de la province romaine d'Asie qui subissaient à l'époque une terrible persécution de la part de l'empereur Domitien. C'est la pire période de l'histoire de l'Église, hein, en termes de densité de persécution. Domitien voulait en effet qu'on lui rende un culte en tant que Dieu. Alors tous les empereurs romains avaient la prétention d'être des demi-dieux. Domitien, il a monté le niveau un petit peu. Il dit, je ne suis pas un demi-dieu, je suis un dieu. Donc tout le monde doit m'adorer. Ce que les chrétiens, forcément, ont refusé de faire. Pardon. C'est ce même Domitien qui a envoyé Jean sur l'île de Patmos. D'après Eusèbe de Césarée, dont l'historien de l'Église, l'empereur Domitien aurait même cherché à éradiquer la descendance du roi David. Le terme m'échappe maintenant. Peu importe. Donc, il a essayé d'éradiquer, il y a des mots qui ne me viennent plus. Hein, les fichiers, j'appelle le fichier avec le pied, hein, ça ne vient pas. Donc, il aurait tenté d'éradiquer la descendance du roi David, et dans ce cadre, il aurait fait arrêter les petits-fils de Jude. Vous voyez Jude, l'épître de Jude. Jude qui était un demi-frère de Jésus aussi. Donc, il avait réussi à retrouver ses petits-enfants, du moins c'est ce que Eusèbe dit. Et après les avoir entendus, quelle chance, hein, il les aurait relâchés, sans doute. Ne discernant pas en eux une quelconque menace. C'est un autre empereur, par contre, Trajan, qui, après avoir succédé à Nerva, donc sur le trône de Rome, aurait fait mettre à mort Simon, le successeur de l'apôtre Jacques, qui avait été tué, le demi-frère de Jésus, qui était évêque de Jérusalem, qui avait donc succédé à Jacques à la tête de l'église de Jérusalem, et ce fameux Simon aurait été un cousin de Jésus. Bon, là, il faut nuancer ce que dit Eusèbe, hein, quand on potasse un petit peu, bon. C'est une approche, mais elle peut être contestée. Mais je trouve ça intéressant quand même de voir jusqu'à quel point certains ont poussé la vanille, dirons-nous. Alors nous avons été pendant plusieurs semaines dans l'évangile de Marc. Savez-vous pourquoi l'évangile de Marc a été écrit? En tout cas, c'est la thèse défendue par certains auteurs, par certains théologiens, dont Daniel Bourguet, pour ne pas le citer. Bon, moi je pense que l'évangile de Marc est daté d'un peu plus tôt, mais bon. Mais d'après ses sources, Marc aurait écrit son évangile, pardon, pour les chrétiens de Rome parce qu'ils étaient passés et passaient encore par une terrible persécution, celle de l'empereur Néron à la suite de l'incendie de Rome. Rappelez que quand Rome a brûlé, ce sont les chrétiens qui en ont été désignés comme responsables. Marc écrirait donc pour encourager ses frères et sœurs dans la foi qui, en plus d'être persécutés, doivent donc faire face au décès de Paul et de Pierre, qui ont été exécutés lors de cette même persécution. Non seulement ils sont persécutés, non seulement peut-être qu'en tant que chrétiens habitant Rome, leur maison a été détruite par l'incendie, ils ont peut-être perdu des proches aussi, donc il y a de quoi être en deuil, et en plus, les deux plus grands apôtres sont morts, ont été mis à mort lors de cette persécution sous Néron. Marc a donc à cœur de leur dire que tout ça, pour terrible que ce soit, a été prédit et annoncé par leur Seigneur. Ils ne doivent donc pas s'étonner. Et que face à la persécution fourbie par tous les tyrans du monde, les Écritures sont là pour nous rappeler que le seul Dieu Tout-Puissant, indépendamment des apparences, même si souffrance infligée il y a encore pour un peu de temps, c'est le Christ, et rien que le Christ. Ce n'est donc peut-être pas pour rien que Marc débute son évangile par la prophétie d'Ésaïe 40, verset 3, que je prends avec vous, et qui annonce la venue du Seigneur Yahvé Adonai. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de qui? D'Adonai. Préparez le chemin de Yahvé. Rendez droit ses sentiers. Dès le début, si le contexte est juste, hein, ces auteurs ont raison, si Daniel a raison, eh bien, en commençant par cette prophétie, Marc rappelait aux chrétiens, à qui il s'adresse, aux chrétiens de Rome, donc en particulier, que c'était bien l'annonce de la venue de Dieu lui-même en Christ qui était annoncée, et qu'ils n'ont pas rêvé, et que malgré ce qu'ils subissaient, Jésus avait prédit tout ça, et qu'il revient, qu'ils ne doivent donc pas s'inquiéter. Donc ce sont les trois premiers versets de l'Évangile, et il affirme avec force que Jésus est Dieu, et qu'ils n'ont dès lors rien à craindre, car tout ce qu'ils vivent est écrit. Et que comme l'a si magnifiquement dit Paul, qui a lui donc aussi connu le martyr, qui est mort martyr, Christ est ma vie, je vis pour le Christ, et la mort m'est un gain, et mourir, tant mieux, pourquoi je serai près de mon Seigneur. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous sont dans ce genre de sentiment ce matin. Hein? Donc Jésus dit tout ça à ses disciples pour ne pas les décourager, pour qu'ils ne soient pas découragés. Au contraire, il dit ça, tout ça pour qu'ils soient encouragés et pas surpris par ce qui va encore se passer une fois que lui sera reparti auprès de son Père. Non, les choses en ce bas monde n'iront pas mieux une fois Jésus reparti. Ni les rapports entre les hommes, de là les guerres et les famines. Je rappelle quand même que la grande majorité des famines, en tout cas aujourd'hui, sont créées artificiellement. J'ai déjà dit ça, je pense. On a mis les denrées alimentaires de base en bourse. On boursicote sur le blé, vous vous rendez compte? Il y a des entrepôts remplis dans le monde entier où on crée des famines et il y a de quoi manger. Mais on laisse pourrir pour faire monter le prix. Ici. Mangez ce bouquin de Jean Ziegler si ça vous intéresse, mais après, pour dormir, c'est moins facile. Donc les rapports entre les hommes ne s'arrangeront pas, de là les guerres, ni les rapports entre l'homme et la nature, de là les tremblements de terre, les ouragans, les tempêtes, les raz de marée et le réchauffement climatique, ni les rapports entre le monde et les disciples de Jésus, de là les persécutions. Donc notre Seigneur veut dire à ses disciples que le monde dans lequel ils vivent ne changera pas. Il va rester le même. Et connaître au fur et à mesure que nous nous rapprochons du retour de notre Seigneur un accroissement des douleurs. Les choses n'iront pas mieux. Donc, contrairement à ce que disent certains, qui affirment que Jésus ne reviendra que quand son évangile aura transformé la société. Sans blague. C'est mal parti. Hein. Je rappelle par rapport à ça, pour couper sans doute court à toute discussion, que cette planète est sous le jugement de Dieu à cause des péchés qui y sont commis et qui ont pour conséquence les terribles événements et catastrophes que Jésus cite. Certains pourraient néanmoins encore et toujours croire en l'homme et ses capacités. Je vous l'ai dit, si vous ne croyez pas en Dieu, vous allez quand même devoir un petit peu croire en l'homme. Donc certains continuent à dire « moi j'ai l'espoir en ce que l'homme peut faire ». Ces personnes pourraient mettre en avant les avancées scientifiques, les avancées dans le domaine de l'éducation, et ça je suis un peu moins sûr quand même, et l'amélioration des conditions sociales de certains. Et on peut évidemment entendre ça et relever que tout ça est positif, et peut-être même à certains moments s'en réjouir. Conditions sociales des plus précaires, en Europe du moins, en Belgique en particulier, sont quand même moins pires qu'une centaine d'années, nous sommes d'accord pour dire ça je pense. Mais mes amis, ce qui détruit ce monde, ce n'est pas l'absence d'avancées scientifiques, pas plus que l'absence de progrès dans le domaine social, par exemple. Ce n'est pas ça qui détruit notre monde. Ce qui détruit ce monde, c'est ce qui est profondément ancré en chacun de nous, comme marqué au fer rouge. Ce qui détruit notre monde, c'est notre péché. C'est le péché de l'homme, c'est ça qui détruit le monde. Et avec le péché, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'homme d'avancer d'un millimètre dans le domaine moral et spirituel. C'est bien l'absence d'avancée morale et spirituelle, appelons ça comme ça, qui est la cause de l'état de ce monde et de ceux qui y vivent. Et c'est bien pour cela que la seule solution est un changement radical qui ne pourra venir que de Dieu, en la personne de son Fils venant instaurer son royaume sur la terre. Combien de solutions les philosophes, les hommes politiques ou les penseurs de tous bords ne nous ont-ils pas offert pour accoucher d'un monde meilleur? Ceux qui ont un peu de lettres le savent. Rien qu'au XXe siècle, je n'ai pas été très loin, nous avons eu droit à la solution finale. Solution finale. Finale à quoi? À tous les problèmes. C'est ça la solution finale. On va régler tous les problèmes. Cette solution étant, vous savez, avait été prônée par les nazis. Le problème, c'est quoi?
Les Juifs.
Éliminons-les et un monde nouveau émergera. Ou encore, toujours au XXe siècle, le marxisme. Le problème, c'est le capital. C'est ceux qui possèdent. Le problème, c'est l'oppression du prolétariat, de la classe ouvrière par la bourgeoisie. Tout est hiérarchie et lutte de pouvoir. Supprimons la propriété privée et les riches. Mettons tout en commun et ce sera le paradis sur terre. Bon, j'ai déjà dit, mais le marxisme a muté. Hein. On n'en parle plus trop. Les socialistes politiquement ne sont pas bien, en tout cas en France par exemple. Par contre, l'idéologie, elle, a muté. Hein. Postmodernisme, c'est du marxisme déguisé. Avec toutes les conséquences catastrophiques dans tous les domaines de la société, familiale, philosophique, sociétale, sociologique et politique. Donc ces deux grandes idéologies du XXe siècle n'ont pas permis l'avènement du paradis sur terre, mais de l'enfer. Et si je leur ai attribué le vocable de grandes idéologies, ce n'est pas par respect pour la pensée que celle-ci prenait, ça ne risque pas d'arriver, mais pour le grand nombre de morts et de souffrances que l'humanité leur doit. Il est à noter que de nos jours, on ne propose pas grand-chose d'autre que des versions soft de ces deux mêmes idéologies. Hein. D'un côté, le nationalisme et sa haine de tout ce qui n'est pas lui, et l'international, l'avenir du genre humain. Que tous les peuples de la terre se donnent la main, on a vu ce que ça a donné. Alors, il y a bien une troisième approche, hein, le capitalisme, l'ultralibéralisme, le salut par l'argent, en fait. Alors, c'est tout aussi mortel, si ce n'est que cela tue moins sûrement les personnes que leur cœur. Mais c'est malgré tout, en paraphrasant très librement Winston Churchill à propos de la démocratie, le moins mauvais système à l'exclusion de tous les autres. Aucune forme de progrès ne détruira jamais le péché. Ce qui veut dire que les disciples et nous à leur suite ne doivent donc pas être surpris de l'avancement du monde, mais bien rendre témoignage jusqu'au martyr parfois, à leur Dieu et Maître Jésus-Christ. Nous ne devons pas attendre un paradis sur la terre dont l'origine serait l'homme pécheur. Cela n'arrivera jamais. Non, mais. Deux versets dans l'évangile de Jean. Je leur ai donné ta parole, c'est bien entendu le Christ qui s'adresse à son Père, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal ou du malin. Les chrétiens ne seront donc pas épargnés par tous ces troubles que Jésus vient dénoncer à ses disciples. Ils vont partager ces troubles avec les pécheurs et les hommes non régénérés autour d'eux. Ils sont au contraire appelés à y faire face avec foi et persévérance. Car pour qu'un nouveau monde soit possible, il faudra attendre le retour de notre Seigneur et pendant ce temps-là, il faudra tenir. La condition du monde jusqu'au retour du Seigneur explique cette autre prophétie de notre Seigneur dans ce chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance sera bien de mise et toujours plus nécessaire à mesure que le mal augmentera. Ce qui explique que certains, dit Jésus, deviendront apostats. Autrement dit, ils abandonneront leur maître, leur seigneur, leur foi, et iront dès lors même jusqu'à trahir ceux qu'ils appelaient autrefois leurs frères dans la foi. D'après des textes parallèles dans des évangiles, certains iront même jusqu'à dénoncer leurs parents, leurs pères, et leur mère. Alors ça peut paraître invraisemblable. Je rappelle par exemple, pour l'anecdote, mais si on n'avait pas eu, si je compare à la situation de l'Allemagne dans les années 30, des jeunes Allemands enrôlés dans les jeunesses hitlériennes à qui on avait lavé le cerveau, dénonçaient leurs parents s'ils disaient quoi que ce soit de négatif contre le national-socialisme. Et les parents étaient mis en cabane, hein, en prison. C'est les enfants qui dénonçaient les parents. Donc ne croyez pas que ça ne peut pas arriver. Hein. Il y a certains chrétiens qui vont se dégonfler quand ça va commencer à taper. Hein. Et qui vont trahir leurs frères et sœurs. Hein. Et même leur propre mère, si ça peut sauver leur peau. Hein. Tout ça est terrible, mais Jésus dit, mais, il y a un mais, merci Seigneur, celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Alors, je voudrais être clair, la persévérance n'est pas une condition du salut, hein, bien sûr, mais c'est un de ses fruits. Si la foi est réelle, la persévérance va être là. Le salut est un don de Dieu, indépendant de notre mérite, on ne le dira jamais assez, mais il comprend la force et la volonté de continuer jusqu'au bout avec Dieu, quel qu'en soit le prix. Pas pour ça qu'on ne passe pas par des questionnements, par des moments difficiles, par des hésitations, par des doutes, tout ce que vous voulez. Mais on ne lâche pas. Donc cette persévérance, la capacité de rester fidèle malgré l'opposition, est donc la preuve principale d'une vie changée et transformée par notre Seigneur. Vernon McGee, un pasteur de la première moitié du XXe siècle, fait cette remarque. Et dans notre contexte, je pense qu'elle est tout à fait... licite. Il y a actuellement des fils prodigues dans les porcheries du monde, autrement dit des gens qui doivent venir à l'évangile, et des pourceaux dans les églises, donc des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais un jour, tous les fils retrouveront la maison de leur père et tous les pourceaux retourneront au bourbier. C'est un peu cash, hein? C'est le XXe siècle. On s'amuse encore un petit peu. Tout ça signifie une chose, hein, mes amis, vous aurez compris, hein, on l'a déjà dit, je pense, dans d'autres messages, l'épreuve, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit sa nature, hein, et certainement la persécution pour la foi, l'épreuve est un fantastique révélateur de qui nous sommes. On peut bablater beaucoup, hein, ou ne rien dire du tout d'ailleurs, mais c'est quand ça va commencer à taper qu'on va voir et on va se compter. Et c'est en cela que l'épreuve est un feu qui purifie notre foi. Et je cite Pierre, là, je vais vous citer Pierre. « Béni soit Dieu le Père. » C'est le premier verset de sa première épître. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Commence par le positif. Hein. « Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. C'est dur ce que vous vivez, mais il y a après, il y a la suite qui va être magnifique. Il faut tenir. » Donc, tout cet héritage vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Parce que tous ces martyrs, tous les chrétiens qui auront tenu dans l'épreuve et la persécution, évidemment, ils auront une récompense digne de leur foi et de leur persévérance. Vous l'aimez, dit Pierre, sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. La persévérance dans l'épreuve permet de révéler qui nous sommes vraiment. Car l'apôtre nous dit que c'est Dieu qui nous garde par sa puissance au moyen de la foi. L'échec dans l'épreuve, puisque c'est Dieu qui garde dans l'épreuve, l'échec dans l'épreuve est donc un indice de non-régénération. Ça prouve qu'on n'est pas régénéré, qu'on n'est pas né de nouveau. C'est dur, hein? Il faut arrêter de se passer les éponges. Jean, je rappelle ce texte dans la première épître de Jean, c'était déjà la réalité de l'Église, hein, le mélange. Ils sont sortis du milieu de nous, donc il y a des chrétiens qui ont abandonné, qui ont laissé tomber, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Il fallait que ça arrive, que des gens lâchent pour manifester quoi ? Mais qu'il n'était pas ce qu'il prétendait être, tout simplement. Voilà donc ce qui attend, mes amis, tout disciple de Christ, potentiellement. C'est ce qu'ont vécu de bon nombre de chrétiens au cours des siècles et c'est ce que vivent encore aujourd'hui des milliers de chrétiens dans le monde. Ils sont persécutés pour leur foi. Alors, si nous sommes lucides, et je terminerai en disant ça, nous, en tant que chrétiens d'Occident, ben, on ne se retrouve pas encore vraiment dans les paroles de Jésus, hein, ni dans celles de Pierre, ni dans celles de beaucoup d'encouragements aux chrétiens persécutés contenus dans l'Écriture. Hein. On ne vit pas ça. Si vous êtes persécutés parce que vous êtes chrétiens, il faut me le dire. Hein. Je prierai avec vous et pour vous. Nous ne sommes pas persécutés. Pour l'instant, notre foi n'est mise à l'épreuve que par des circonstances difficiles. La maladie, le deuil, des problèmes familiaux, que sais-je encore, ou d'autres choses pénibles que notre Seigneur nous demande dès lors de vivre avec lui sans lui lâcher la main. C'est ce que Paul dit en Romains 8. Ces épreuves-là aussi, sans doute moins terribles que la persécution, ben, il faut aussi les vivre avec Jésus, parce que ça aussi, lâcher la main de notre Seigneur dans ces conditions-là, c'est aussi une preuve d'apostasie. On ne vit pas persécution. Moi, je pense que nous sommes en fait frappés d'une maladie dont souffre l'Église occidentale dans son ensemble. C'est le pire danger qui menace l'Église d'Occident, si ce n'est pas déjà trop tard. Et ce danger, c'est l'endormissement. Les chrétiens dorment. Et il y a aussi des choses très intéressantes dites dans l'Écriture à propos des gens qui dorment. Et je pense que pour cette Église d'Occident, dont la nôtre fait bien entendu partie, il n'y a qu'un seul message, celui d'Éphésiens 5. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ brillera sur toi. Réveillons-nous, mes amis. Parce que si un jour nous devons malheureusement passer par la persécution, je pense que tous les endormis du monde ne passeront pas la persécution. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.